Écoutez le monde changer. Europe 1.
Confinement, nous vous proposons de redécouvrir une conversation d'Isabelle Morizet avec le chanteur Garou. C'était le 14 décembre dernier sur Europe 1. Bonne écoute à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre.
Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Du talent, il en a à revendre, Garou. Pas étonnant qu'on l'ait choisi pour fêter sur disque les 60 ans du label américain mythique Tamla Motown. Sincèrement, qui mieux que lui pouvait faire revivre ces joyaux du patrimoine mondial du groove? Eh ben personne. L'album a pour titre Soul City et il est urgent de s'en emparer. Une tournée d'ailleurs démarrera le 25 novembre 2020 à Strasbourg et s'achèvera salle Playel à Paris le 11 décembre 2020. Mais en attendant, ben voilà, on part pour une heure en balade avec Garou. Bienvenue dans cette émission, cher
merci
Garou.
Merci beaucoup, merci, bonjour.
Il a l'œil qui brille. Alors, cette aventure, Garou, de l'album Soul City, elle a démarré sur un coup de fil inattendu. Il y a quelques mois, Alain Yamy, directeur du label Panthéon chez Universal, vous annonce au téléphone « Bon, tu sais que la Motown fête cette année ses 60 ans ». Alors, moi, je rappelle que, pour ceux qui peut-être l'auraient oublié, Tamla Motown, c'est le label mythique qui lança les Supremes et Diana Ross, les Jackson 5 et Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha Franklin, James Brown, Tina Turner, Prince, Earth, Wind and Fire, bon, et j'en passe. Et Alain Yamy poursuit donc « Alors, Garou, pour les 60 ans de la Motown, on aimerait vraiment que tu fasses un album, car franchement, il y a très très peu d'artistes capables de s'attaquer à ce répertoire-là. » Vous vous souvenez de votre réponse?
La réponse, au début, est plutôt « mais encore ». J'attendais des précisions, parce qu'au début, quand Alain m'appelle, ça sonnait un peu comme un album multi-artiste.
Ah oui.
Je sais, pour avoir participé, par exemple, à Forever Gentleman, qui était une trentaine d'artistes, et comme la vie est spéciale, des fois, nous, on se retrouve à faire encore des tournées avec Rock Voisine et Corneille. Donc, on a, oui, un trio, ce qui était l'essence du Rat Pack, avec Frank Sinatra.
Sinatra, ouais, voilà, Sammy Davis Jr.
Exactement. Et
Dean Martin,
pour ne nommer que celui-là, parce qu'il y en avait plus qui venaient se greffer souvent. Le Rat Pack, c'était pas que trois mecs, mais c'est resté dans notre image, vraiment, ces trois principaux qui étaient là. Et donc, je me dis, bon, OK, on sera combien? Il dit, ben, en fait, on essaie de faire la liste des gens qui pourraient le faire. Et il y a pas mal toi, sur la liste.
Voilà, toi
aussi. Et là, je dis, OK, c'est un peu paniquant quand même, parce que la montante, comme tu l'as si bien expliqué, ça a fait émerger de grands artistes, mais aussi de grandes chansons et, voilà, d'un grand son. Donc,
c'est ça.
Il y a toute une image sonore aussi chez la Motown. Donc, reprendre ça, c'est flippant, parce que c'était fait par de grands auteurs-compositeurs, c'était fait par de grands interprètes et c'était fait par de grands sonorisateurs, mixeurs et musiciens incroyables qu'on appelait les Funk Brothers la plupart du temps. Et donc, je me dis, bon, OK, je veux pas faire de la peinture à numéro. La peinture à numéro, là, Alain me dit, de quoi tu parles? Je dis, non, mais tu sais, l'espèce d'album par comité où finalement, je vais arriver, puis les chansons vont être prêtes et je vais poser ma voix dessus. Je dis, ça m'intéresse pas du tout. Donc, deux conditions.
Alors, attends, d'abord, avant les deux conditions, parce que moi, je veux tout savoir, et puis nos amis auditeurs aussi, mais je t'arrête tout de suite parce que je me souviens quand même que depuis quelques années, Garou, on dit tu, on dit vous, je ne sais plus. Allez, normalement
au
on
Québec,
dit...
c'est toujours tu.
C'est toujours tu. Bon, alors,
à
tu répétais en interview, tu répétais... Mais franchement, à quoi ça sert à l'époque du streaming et de la gratuité virtuelle de faire des albums aujourd'hui? Donc, avant de parler du choix des chansons, la proposition d'Alain Yamy, elle a balayé absolument toutes tes réticences.
À ce niveau-là, complètement, parce que je me dis, là, on a un véritable alibi. Là, je comprends pourquoi je fais un album de plusieurs chansons. C'est que clairement, on veut. Ben, j'aurais pu faire un album de 200 chansons avec la Motown. Mais là, je me dis, OK, ouais, on reprend le support d'un album parce qu'on a envie de l'avoir. Et on a envie de rebrancher notre vieux lecteur. On a envie de brancher notre platine, ce qui est toujours branché à la maison, et d'écouter un album au complet, surtout. Parce que maintenant, la façon qu'on consomme la musique, ben, on va écouter une chanson d'un artiste, une chanson de l'autre, une chanson de l'autre. Mais là, dans ce cas-là, je me dis, pourquoi pas écouter au complet plusieurs succès de la Motown et faire une heure festive en écoutant ça, parce que c'est très festif.
Comment se débrouille-t-on pour n'en retenir que 13? Parce que des chansons sublimes produites par Tamla Motown, il y en a des centaines, des chansons mythiques, il y en a aussi des dizaines, ouais, donc 13.
Et 13,
c'est cruel.
Comment faire? Oui, c'est cruel, mais en même temps, c'est une chance inouïe. C'est comme si j'allais chez le Père Noël et il me disait « Choisis les jouets que tu veux, quoi.
» Alors, les conditions posées pendant ce coup de fil à Alain Yami pour enregistrer cet album. Toi qui ne voulais plus entendre parler d'album et seulement de concerts, de tournées depuis quelques années. Ça a été quoi ces conditions?
Deux conditions qui sont non négociables. C'est je veux qu'on se rencontre chez moi avec mes musiciens. C'était ça.
C'est-à-dire chez toi dans ta grange à musique.
Ma grange à musique, qui est un endroit qui est mon nouveau carré de sable, qui est mon nouveau jouet. Et c'est un endroit dans lequel j'ai mis tellement d'amour, tellement de travail, et j'avais des projets que je voulais démarrer cet automne dans cet endroit-là. Je me suis dit, bon, si je fais un album, je n'arriverai pas à faire les projets que je voulais faire, donc ça attendra, parce qu'il n'y avait pas d'urgence non plus. Mais comme j'ai l'excitation de cet endroit-là, qui est l'endroit, de toute façon, où mes musiciens viennent à la maison, on fait le bœuf, on va se promener en forêt,
oui, parce
on joue aux cartes, on s'amuse.
Il y a des lacs pas loin, exact. On est quand même dans des paysages d'une nature sauvage, préservée, absolument magique.
On se fait des randonnées, j'ai des quads, j'ai tous les jouets possibles, le quad, la motoneige, les tout, on se promène, on va marcher dans les bois. Et,
le paradis.
Et le paradis, on revient, on se fait une partie de poker, on est bien, quoi. Donc je savais que ça allait être dans une ambiance où on n'allait pas être dans un studio où il y a plein de gens là, qui sont là à travailler le truc. C'est plutôt, je voulais amener les gens chez moi. Je voulais inviter le public chez moi à écouter l'ambiance,
oui,
et le plaisir qu'on avait à jouer ensemble. Et je voulais inviter, évidemment, un réalisateur.
Mais... Et l'autre condition, est-ce que, par hasard, ce n'était pas justement tout enregistré en live, ce qui ne se fait plus aujourd'hui pour aucun album?
Ce qui ne se fait plus aujourd'hui, et c'est vrai que c'est très rare qu'on se permette de faire ça, et on s'est posé la question à quel point on allait digitaliser l'affaire, mais on a eu la sagesse, je crois, de jouer que des vrais instruments, donc il n'y a aucun son synthétique sur cet album. On a branché directement dans une vieille console analogue pour retrouver ce son, la chaleur de ces sons-là, des amplis avec des lampes, et pour retrouver le son de l'époque, mais enregistré d'une façon plus précise aujourd'hui grâce à l'ordinateur qui, lui, à la fin, enregistre en digital. Mais c'est le seul moment où on digitalisait... On binarisait notre musique.
Alors, Garou, ces 13 titres sont vraiment des pépites qui sont restées dans la mémoire collective. Fallait incarner en étant fidèle, mais pas trop. Est-ce que tu as retrouvé, en enregistrant par exemple « Papa was a Rolling Stone », est-ce que tu as retrouvé le carburant, la fougue, l'euphorie qui étaient les tiennes quand tu chantais dans les bars de Sherbrooke, au Québec, à 20 ans?
Complètement, complètement. C'est même un moment où on est parti sur une vidéo, on a fait une vidéo... Je sais même pas si je vais la sortir un jour parce que ça devenait très trash, très sombre.
Si, il faut la sortir.
Mais on s'est tellement régalé à faire ça, là. Et pour moi, c'était une des premières idées que j'avais eues, c'était de faire un mash-up avec Papa Was a Rolling Stone et War.
Alors, mash-up, ça veut dire en français?
Mash-up, c'est non pas un medley de chansons, donc deux chansons qui se chevauchent, mais deux chansons qui s'emboîtent, je dirais. Et c'est comme si on racontait une nouvelle histoire de ces deux chansons-là. Ça fait une longue version, mais bon, les Temptations avaient fait une version aussi de 12 minutes 14, je pense, un truc comme ça. Et nous, on s'est arrêté à 5 minutes quelque chose, quand même.
Mais ce qui est plutôt rare aujourd'hui. Voilà, on peut être généreux avec ce genre de titre qui vraiment appartient au patrimoine du groove. Alors, on va faire une pause très courte. On retrouve tout de suite Garou, qui vient de sortir un album baptisé Soul City et qui est vraiment urgent, urgent de glisser dans sa discothèque. À tout de suite.
Jusqu'à 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 avec Isabelle Morizet, son invitée, Garou. En décembre dernier, elle avait mis un petit coup de projecteur sur cet album qui fait la part belle à la Motown.
Mais que cet album fait du bien. Il a pour titre Soul City. Garou a enregistré 13 pépites du patrimoine de la Tamla Motown et il est cet après-midi mon invité. Alors, d'habitude, on est sur le vouvoiement, mais Garou nous a dit au début de cette conversation qu'au Canada, c'est le tutoiement. On ne dit vous que si vraiment il y a un ensemble de personnes. Alors,
ouais, je peux faire des efforts.
Non, c'est moi qui vais te tutoyer. Okay. Cher Garou, est-ce que tu te souviens des sensations que tu as découvertes la toute première fois que tu as interprété à la guitare à l'âge de 11 ans un titre d'Elvis devant un auditoire? Il paraît que c'était dans une église.
C'était dans le sous-sol de l'église, c'était la soirée de fin d'école. Et donc, je vois tout le monde qui se monte un numéro. Je me dis, je peux pas être tout ça. J'étais un peu solitaire, mais étant très timide. Et je voyais des groupes se former, des gens vouloir faire le show. Et là, on me demande, on dit, bon, toi, tu vas faire quoi? Et dans la classe, j'ai chanté une chanson. Et je suis tétanisé, vraiment terrorisé complètement. Et je rentre à la maison, je dis à mon père, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie, mais je suis inscrit comme tout seul à faire une chanson au sol de l'église. Et moi, j'ai une toute petite guitare à ce moment-là que j'ai reçue quand j'avais 3 ans et demi, qui est minuscule. Et je demande à mon père, est-ce que tu me prêterais ta guitare? La grosse guitare de mon père.
Sur laquelle tu avais déjà joué?
Sur laquelle j'avais à peine joué parfois. Il me surveillait quand je jouais dessus. Mais là, la sortir de la maison tout seul pour l'amener, déjà que j'avais du mal à la porter à cet âge-là. Et c'est incroyable parce que je me suis retrouvé à faire un titre d'Elvis, That's Alright, Mom.
Ah, carrément?
Carrément. Et j'ai chanté ça au milieu du spectacle. Puis il s'est passé un truc, c'était assez spécial.
Tu t'es libéré, soudain.
Je me suis libéré, ouais. J'étais fier de moi. Et c'est des années plus tard que, à ce moment-là, j'ai 11 ans, en fait. Donc, 2 ans plus tard, je me balade au séminaire, à l'école où je suis. Et y a un mec qui vient me voir et dit, écoute, on vient de former un groupe. Ça s'appelle Windows and Doors. On fait beaucoup de chansons des Beatles. Je t'ai vu dans le sous-sol de l'église il y a 2 ans jouer de la guitare.
Oui.
Est-ce que tu pourrais être guitariste pour notre groupe? Et ça m'a lancé... ça m'a lancé dans toute la recherche. Je chanterais pas du tout pareil aujourd'hui. Oui, j'aimais tous les vieux rock, les vieux blues. Mais c'est vrai qu'à
arriver... Ce
qu'écoutait ton père? Ouais,
ce qu'écoutait
mon père.
Qui aimait chanter aussi, paraît-il.
Mon père chante extrêmement bien. Là, il veut plus chanter, là, il est trop timide. Mais...
Vous avez déjà fait des duos sur scène ou pas?
Il a jamais voulu. Sur scène, il a jamais voulu. J'aurais tellement aimé ça le monter parce qu'on faisait ensemble les Everly Brothers.
Oui.
Et on chantait toutes ces chansons de Bye Bye Love, Wake Up Little Susie. Et donc il m'apprend. Et je pense que Everly Brothers, de toute façon, ont influencé de Neil Young aux Beatles en passant par plein de monde. Je pense que tout le monde était fasciné. Et c'est ça, donc je commence ce groupe-là et là j'apprends à faire des harmonies comme on fait des Beatles et je commence à chanter.
Donc tu,
dans ce
voilà,
groupe.
En même temps musicien. Alors, la légende de Garou, elle est née dans les bars de Sherbrooke où tu as commencé à donner de la voix vers l'âge de 14, 15, 16 ans. Tu rêvais de faire carrière ou bien tu n'avais absolument pas cette ambition-là?
Absolument pas cette ambition-là. On s'amusait à rêver quand j'avais le premier groupe, là, les Windows and Doors. Mais bon, on savait bien qu'on irait nulle part avec ça. On n'avait pas l'intention d'aller nulle part avec ça. Et c'est vrai qu'arrive un autre truc, c'est à mes 19 ans. Et cette soirée-là change véritablement ma vie. C'est une amie qui m'amène là, qui me pousse sur scène, parce qu'elle avait demandé au chanteur de m'inviter. Et je suis tout seul avec sa guitare, puis je me mets à faire...
Tu ignorais ce qui allait se passer.
Je ne savais pas qu'on allait t'appeler sur scène.
Oui.
Je ne savais pas du tout. Et comme dans un film, c'est la barmaid qui prend le téléphone et qui met le combiné sur l'enceinte.
Oh.
Et en appelant le patron et en lui disant... Viens vite, saute dans ta voiture et viens écouter ce mec. Et le patron en a faim ici, donc il est arrivé. Et il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses des soirées ici. Je dis, ben là, je viens de jouer les 6 chansons que je connais. Donc, je vais pas faire un long spectacle, à moins que je les fasse à répétition. Et il dit, non, il faut absolument que tu montes un spectacle. Et ça, c'était un samedi soir. Et il m'a rappelé le mardi. Il dit, j'ai annulé le mec qui jouait jeudi, vendredi, samedi.
Oh mon Dieu.
Et c'est toi qui viens. Donc, j'ai eu 48 heures pour acheter une sono, savoir comment ça fonctionne, faire les branchements, apprendre des chansons, monter un spectacle. En 48 heures, j'ai fait ça. Je suis arrivé sur scène et j'ai joué là pendant 6 semaines. Il a annulé ce qui suivait après.
Et les producteurs sont venus, des gens de radio.
C'est dans un deuxième temps. C'est après ça, après ces 6 semaines-là où il y avait des copains qui venaient, mais il y avait plein de monde qui... C'était le bouche à oreille. Quelques semaines après, je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai commencé. J'ai fait un premier dimanche à Garou. On appelait ça comme ça, le dimanche à Garou. Et il y avait déjà des gens qui étaient là, mais là, il y a un bouche à oreille hyper rapide. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tous les dimanches. Et c'est là que j'ai eu plein de propositions que des musiciens de Montréal montaient puis ils se faisaient dire, il faut que tu ailles jouer avec ce mec-là. C'est un barjo. Parce qu'on sait même pas ce qu'on joue quand on commence la soirée. Et donc, il fallait repiquer les chansons, essayer de trouver les textes. J'avais des cahiers que je me faisais prêter par des amis, de paroles de chansons. On était plusieurs à travailler là-dessus.
Alors, avant de continuer de dérouler le fil, je voudrais juste savoir, cette voix furieusement rocailleuse, gorgée de testostérone, qui n'a rien à envier à celle de feu Joe Cocker, elle est arrivée très très naturellement à la sortie de l'adolescence, Garou, ou tu l'as travaillée à l'aide de nuits blanches, de cigarettes et de whisky?
Ben, disons que je l'ai travaillée de cette façon-là. je l'ai travaillé aussi par les influences. Et ça, ça me fascine parce qu'en étant coach sur The Voice, j'apprends à aller comprendre d'où provient leur voix et d'essayer d'analyser les gens. Il y a des gens qui se mettent à chanter qui n'ont pas du tout la même voix que quand ils parlent.
C'est vrai.
Et c'est fascinant. Donc, quelque part, ils ont choisi...
Les artistes lyriques, par exemple, très souvent.
Exactement. Très bon exemple.
Les divas de l'opéra.
Ils ont choisi de chanter comme ça, de placer leur voix comme ça. Mais quand j'ai commencé dans les bars, on disait que j'imitais, que je faisais parfaitement les voix de Paul McCartney, de Claude Dubois. C'est lui qui chante sur « J'aurais voulu être un artiste ». C'est la voix du blues du businessman de Starmania. Et nous, au Québec, c'est une énorme star et on connaît bien ses chansons, mais il a une voix hyper perchée. Donc j'arrivais à faire Claude Dubois, Paul McCartney, et de l'autre côté, j'arrivais à faire Joe Cocker, Ray
mais
Charles.
Mais combien d'octaves alors?
Ben, c'est ça, j'avais un registre très ouvert. Et après ça, à force de taper sur Ray Charles et Joe Cocker, la voix s'est forgée de cette façon-là.
Bien sûr. Europe 1. Voilà, une voix faite pour le blues, le rock, la soul. Ouais. Bien qu'une partie de ta carrière ait été faite dans la variété et la pop. Bon, on fait une pause et on retrouve tout de suite Garou. Alors, Garou, il y a une légende à laquelle il va falloir tordre le cou. Non, Luc Plamondon ne t'a pas découvert par hasard en train de chanter dans un bar de Sherbrooke. La réalité d'ailleurs est bien mieux que ça. Tu t'étais présenté, sans trop y croire, à l'audition du nouveau Starmania au Québec, comme ça juste pour approcher Plamondon. Il ne t'a pas retenu pour Starmania, mais il n'a jamais oublié, Luc, ta voix. Et quand Plamondon a préparé Notre-Dame, il a écumé tous les bars de la région de Sherbrooke pour te retrouver, c'est ça?
C'est pas tout à fait ça. Alors, on lui tord le cou.
Encore une fois.
J'avais un ami, pour vous dire comment ça fait longtemps, qui avait reçu un fax.
Les jeunes qui nous écoutent vont se dire, c'est quoi ça? Il nous parle de quoi?
Il était à Prague, en République tchèque. Il reçoit un fax, audition pour Starmania. Il m'appelle, moi je suis dans ma petite ville de Sherbrooke, et il me dit, il y a des auditions pour Starmania. Je dis, ouais, puis... il dit, non, mais tu devrais y aller. Je dis, non, mais j'ai aucune intention de faire Starmania. Et il dit, non, mais vas-y pour rencontrer. Il paraît que Luc Plamondon va être là.
Ouais.
Et donc, je rencontre Luc Plamondon. J'ai même une extinction de voix atroce ce jour-là. C'est peut-être par nervosité, il y a des chances.
À mon avis,
hein.
Oui.
Mais finalement, j'arrive devant Luc et je lui dis d'office, je ne veux pas vous faire perdre votre temps parce que je suis venu ici, mais je me vois pas du tout dans Starmania. Il dit non, mais je pourrais...
Ah, tu commences le casting comme ça, c'est très fort.
D'office, parce que je me dis, comme ça, si c'est soit il se dit, ah, tiens, il est sympa, il est honnête au moins. Ou soit il se dit, tiens, je veux pas perdre mon temps, j'ai une grosse journée, dégage.
Voilà.
Mais il est curieux, ça le titille un peu. Il se dit, ben, viens chanter un petit bout. J'ai dit, ah non, mais c'est plus compliqué que ça, c'est que j'ai une extinction de voix, je peux pas chanter. Et Luc doit se dire, mais pourquoi il est venu, quoi?
Mais tu as chanté quand même un peu, Garou.
Et j'ai chanté un peu justement le blues du businessman. Donc je commence, j'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. Et j'arrive à la partie qui monte, j'aurais voulu être un artiste. Là, ça craque. Et j'arrête, j'ai dit, bon, excusez-moi, M. Plamondon, je peux vraiment pas chanter. Il y a un silence. Luc Plamondon enlève ses lunettes.
Ce qui est rare.
Et il me regarde et il dit, mais qu'est-ce qui se passe, toi? Tu peux pas chanter. Si tu peux pas chanter aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand tu peux chanter? Parce que là, tu chantes incroyablement. Puis là, il était ravi. Donc, il m'a dit, écoute, je pense à toi. Je suis en train d'écrire autre chose. Je peux pas te dire c'est quoi. Je pense à toi. Et finalement, 2 ans et demi plus tard, je crois.
Ah oui.
J'ai eu vent des auditions de Notre-Dame de Paris. Je me suis dit, peut-être qu'il va m'appeler. Et il m'appelait pas. En fait, c'est comme s'il me réservait la surprise. C'est à ce moment-là qu'il est venu au bar où je faisais les dimanches à Garou. Il est débarqué là et il m'a dit « Tu viens passer l'audition ». Et je suis arrivé à l'audition et c'était comme si c'était plié. Pas pour Richard Cochand qui était là au piano, mais Luc lui avait parlé de moi et l'audition qui devait durer, je sais pas, une demi-heure, une heure, a duré 4 heures. Puis il finit avec Richard en faisant le bœuf au piano, je te jure.
Extraordinaire.
Mais c'est fou. Et à la fin de l'audition, au bout des 4 heures, comme il m'avait mis en dernier de la journée aussi, ils me disent « Demain matin, on veut te revoir ». Et on ne te cache pas notre enthousiasme. Demain, on te fait une proposition. Et j'arrive le lendemain matin, on veut te signer, c'est toi qui fais Quasimodo, si ça. Quand pourtant, je suis allé faire l'audition sans savoir que c'était pour Quasimodo. Hein.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il paraît que tu avais dit à tous tes copains, si je réussis pas à 25 ans, j'arrête, je rentre dans le rang, je trouve un vrai job.
Finalement, moi, je voulais même aller aux études, je me disais, ah, c'est rigolo, je voulais pas faire de carrière de musique, je m'amusais à faire de la musique
mais
et comprendre la musique.
Mais s'il n'y avait pas eu cette proposition si inattendue de Plamondon ce matin-là, franchement... tu aurais pris un aiguillage complètement différent, tu aurais reposé ta guitare, tu ne serais pas monté sur scène.
J'aurais continué à faire de la musique pour m'amuser.
Oui.
Et peut-être pour chanter encore des fois dans les bars, mais j'aurais trouvé un boulot sérieux. Mais j'ai toujours pas trouvé de boulot sérieux.
Bon, 1m92, pas loin de 100 kilos, beau gosse pour toute la gente féminine de Sherbrooke. Et il a fallu te disloquer, te tordre physiquement dans le costume de Quasimodo, censé être hideux. Tout ça en chantant d'une voix magistrale. L'incarnation de Quasimodo, Garou, elle a été assez compliquée, laborieuse au départ ou immédiate?
Mais déjà, je suis grand pour ce Quasimodo. Je me sens mal d'arriver monstrueux devant Esmeralda, beaucoup plus grand qu'elle. Et c'est vrai qu'on a fait toutes les répétitions en mettant les bandes qu'on avait enregistrées en studio. Et on travaillait sur l'intention scénique, donc toute la mise en scène et les déplacements. Il fallait que je m'entraîne avec les Yamakasi pour monter dans le mur, parce qu'il y avait tout un mur, donc je faisais les entraînements là-dessus. Et au bout de 2 semaines, ils nous installent les micros. Et je me rends compte qu'en fait, toute ma position, j'ai coupé mon diaphragme en deux, qui est quand même le muscle qui te permet de pousser l'air pour chanter. Oui. Et je fais, oula, il y a un énorme problème, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai eu à peu près 1 semaine pour muscler mon diaphragme d'un côté. Et donc déjà, même mon diaphragme était disloqué. Mais ça a permis des tensions, des malaises, des souffrances. Comme j'avais un mal de genou, et j'ai mis tout mon rôle sur ce genou qui me faisait mal pour pouvoir souffrir. Parce que pour moi, jouer Quasimodo, il fallait que je souffre de plein de façons. Donc, il y a tout qui me faisait chialer.
Mais alors, ce qui est rarissime, en plus, c'est que avec Notre-Dame de Paris, tu as démarré une carrière de star avant même d'enregistrer ton premier album.
Oui. Ah oui.
Ça n'existe jamais dans ce sens-là.
Non, c'est très bizarre. Et surtout, quand j'ai traversé l'océan pour venir faire Notre-Dame, je pensais que j'allais jouer dans un truc de théâtre déguisé où personne n'allait me reconnaître. Donc, c'était pas du tout dans mes intentions de devenir populaire. Et là, arrive la chanson Belle et le Raz-de-Marée, qui est la première chanson que j'enregistre, qui bat tous les records. Et donc, c'est pour ça aussi, je crois que j'attends 3 ans. Pendant les 3 ans que je fais Quasimodo, je ne veux pas signer avec personne. Pourtant, j'ai toutes les propositions de partout.
J'imagine. Mais alors, ce premier album de Garou, baptisé Seul, il a été produit donc par l'époux de Céline Dion, René Angélil. Honnêtement, Garou, c'est lui, René, ou bien Céline, qui a eu le nez de te produire?
C'est Céline qui vient me chercher.
Vraiment?
Ouais. Après ça, c'est René qui est au boulot. Mais c'est Céline qui parle à René, qui dit, écoute, j'ai rencontré un mec à Paris, et c'est un Québécois, et vu qu'il y a toute notre équipe, en fait, qui va arrêter, c'est celui qui devrait prendre la place dans l'équipe pendant les 2 ans, parce qu'elle allait avoir un enfant. Et j'ai cette rencontre avec René qui est complètement magique. Et après ça, ben, grâce à ça, j'ai l'ouverture de travailler un premier album avec David Foster, Walter Afanasieff, avec les plus grands réalisateurs du monde.
Et le duo avec Céline. L'aventure, elle a démarré vraiment de façon triomphale. Disque de diamant en France, triple disque de platine au Canada. Mais pourtant, peut-être, parce que on faisait de toi, finalement, au fil du temps, un chanteur de variété un petit peu trop lisse. Bah, quelques années plus tard, tu décideras de prendre le large pour fonder ta propre compagnie. Alors, Garou nous raconte la suite, passionnante, dans un instant.
Garou rend hommage aux légendes de la soul dans son nouvel album Soul City. Sa tournée va démarrer à la fin de l'année et il est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Garou, tu as surpris tout le monde et peut-être plus encore René Angélil, le producteur planétairement célèbre de Céline Dion et son mari, lorsque tu as décidé en 2007 de quitter son écurie pour fonder ta propre compagnie. Qu'est-ce que tu as appris des coulisses et des mécanismes de ce métier en devenant ton propre boss, puisque l'ADN d'un manager, ce n'est pas du tout celui d'un artiste?
Non, mais je pense que j'avais déjà le côté entrepreneuriat et j'étais déjà dans beaucoup d'affaires et c'est ce que René avait du mal à comprendre aussi. Parce que
tu entends quoi par beaucoup d'affaires?
Ben, j'étais déjà dans des restaurants, des clubs, des projets de toutes sortes. On avait une salle de spectacle et tout ça avec des partenaires. Et tout ça en parallèle avec ma carrière. Chose que René avait du mal à comprendre. Il dit, non mais lâche tout ça. Pourquoi tu mets des énergies dans ça quand il faut y aller, là? Et de l'autre côté, où il me disait, ah, on a une opportunité de rêve là pour rentrer aux États-Unis, je disais, non mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir une carrière mondiale.
Tu as dit à René Angelil, une carrière aux États-Unis, ça ne m'intéresse pas.
Ben, je lui disais ça sans arrêt, en fait. Et on s'adorait vraiment. On a passé des moments exceptionnels. On est devenus très, très, très amis.
Mais j'entends bien, mais pourquoi ça ne t'intéressait pas, devenir une star en Amérique?
Parce que le succès, je crois, comme je n'ai jamais désiré ou imaginé que ça allait m'arriver, et comme Notre-Dame m'a propulsé tellement haut que je pense que j'ai pris le vertige. Et ça m'a... je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Non, je veux dans ma vie, je veux faire plein de trucs différents puis enrichissants. Et c'est pour ça que j'avoue que même au milieu du mandat avec René, je lui avais dit à un moment, je lui ai dit, écoute, j'aimerais mieux voler de mes propres ailes. Et René m'avait dit, quoi? Je suis le meilleur manager. Je peux t'amener dans le monde où tu veux. Tu veux t'en aller. Là, je dis, OK, attends un peu, on va se rasseoir.
On
ne
lui avait jamais fait ça, j'imagine, à René.
Ben déjà qu'après Céline, il n'avait pas eu d'autres artistes, donc oui. C'était bizarre pour lui. Céline avait envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Moi, pour moi, c'était, attends, je veux faire plein d'autres trucs. Là. J'ai des restos, j'ai des clubs, j'ai une salle de spectacle, j'ai des trucs, j'ai des projets de toutes sortes. Et je m'amuse dans la vie, tu vois, j'ai besoin de cet équilibre pour fonctionner.
Oui.
Et quand je monte sur scène, je me donne à 300%. Mais je veux pas faire que ça. Sinon, je vais devenir fou, quoi.
Alors, Garou, tu es un des coachs historiques de The Voice en France. Tu l'es aussi dans La Voix, au Canada. Les yeux fermés, ce sont les mêmes sensations, les mêmes vibrations, les mêmes émotions, ou bien les références et les choix musicaux sont différents entre les deux continents?
C'est différent. Déjà, déjà vous vous rendez pas compte, mais à quel point, si vous m'écoutez comme coach sur La Voix au Québec, vous allez pas tout comprendre ce que je dis. Parce que là, je m'en viens vraiment québécois. Là, je suis de même. Écoute-moi bien. Là, toi, là, tu chantes en sacrement. Puis c'est hallucinant que tu fais. Là. Puis, donc, quand j'arrive en France, je traduis.
Voilà.
Je traduis ce que je dirais spontanément.
Voilà, on a les sous-titres.
Et donc, c'est ça, pour moi, c'est plus facile à ce niveau-là au Québec. En même temps, les choix de chansons sont différentes, puisque tout un micro... Il y a toujours eu un microcosme de chansons, de musique, d'artistes québécois qui ne sortaient pas du Québec. Ce qui marche en France ne marche pas nécessairement au Québec.
En tout cas, Garou, toi, tu adores ça, expérimenter. J'ai découvert qu'il y a 7-8 ans, tu t'es installé à Broadway pour intégrer, en fait, l'impressionnante machinerie du Cirque du Soleil en jouant les Monsieur Loyal, donc au Radio City Music Hall, le plus grand théâtre du monde, pour un spectacle donné par le plus grand cirque du monde. Tu t'es retrouvé comment dans cette très surprenante aventure?
Non, c'est vraiment incroyable.
On n'en a pas entendu parler, nous, ici en France.
Non, c'est vrai.
Garou et le Cirque du Soleil.
Et c'était la plus grosse production du Cirque du Soleil. Donc, c'était une méga production qui s'appelait Zarkana. Et j'ai vécu cette expérience en plus avec un metteur en scène qui est aussi réalisateur de cinéma. C'est lui qui a fait Le Violon Rouge, qui est un film exceptionnel, un des plus beaux films du monde, qui s'appelle François Girard. Et pendant toute la création du spectacle, j'étais très, très, très proche de lui. Donc, j'ai appris énormément. C'est formidable, quoi. Donc, j'ai que ça, des chances inouïes dans ma vie comme ça.
De belles rencontres. Ouais. Et puis, il y avait New York. New York est une ville qui ne dort jamais. J'imagine que tu adorais y vivre, toi, le noctambule invétéré.
C'est incroyable. En plus, j'avais pris un appartement avec une belle terrasse juste à côté de Times Square. Et des fois, je dormais sur ma terrasse à Times Square.
Pour regarder le film en contrebas.
Ouais, c'est ça. Puis j'avais le son, c'était comme un white noise, comme on appelle ça. Mais tu sais, les bruits de fond qui font dormir, là. Mais moi, c'était Times Square.
C'est chic. Bon, Florent Pagny a son domaine du bout du monde en Patagonie. Toi, Garou, tu as tes terres dans les cantons de l'Est, au Québec. Un vaste domaine dans une nature sauvage, préservée. Il ressemble à quoi vraiment ce port d'attache si loin du showbiz?
Déjà, la première maison que j'appelle ma maison Notre-Dame de Paris, qui est au bord d'un lac, ben j'espère la garder toute ma vie.
Oui.
Moi, pour moi, c'est une maison au bord d'un lac écologique, et je bois l'eau au bout du quai, c'est fabuleux. C'est un endroit qui m'a tellement équilibré dans la vie que j'ai pas envie de perdre C'est comme si j'allais perdre pied si j'avais plus cette maison-là. Et tout près de là, ben c'est ça, j'ai acheté il y a presque trois ans, j'ai acheté une terre, une forêt, tout ça, puis il y avait une grange là-dessus et qui est devenue ma grange à musique.
Voilà, dans laquelle tu as enregistré donc le nouvel album, Soul City, dans cette grange à musique. Et t'as vraiment fait venir du beau monde dans ce studio du bout du monde situé dans un décor de film digne de Jeremiah Johnson. Hein. Tu as vu ce film magnifique. Bon, voilà, ça ressemble à ça. Si on ferme les yeux, on imagine être chez Garou.
Ouais,
c'est
complètement.
Ça.
Et quand j'avais, bon, Alain Yamy, le directeur artistique de l'album, qui vient avec Alex Finkin, le réalisateur, une de ma plus belles découvertes depuis longtemps. Lui, il débarque là, il sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, je vais les chercher à l'aéroport de Montréal. On a une heure et demie de route à faire, on écoute de la Motown et tout ça, on écoute de la musique. Et on débarque là, ils disent « Non, mais c'est incroyable, c'est le film que je pouvais m'imaginer, quoi. La grange au bord de l'étang, le marécage derrière, la forêt, les plantations de grands pins et tout ça. » Et puis
mais
la
meilleure technologie à l'intérieur du studio.
Ouais, c'est ça, tout ce qu'il fallait pour faire de la bonne musique.
Et
ouais.
Des murs qui ne sont pas parallèles, paraît-il, pour pas que les sons se renvoient et qu'il y ait une mauvaise réverb.
Ouais, dans le studio au bord du lac, c'est comme ça que je l'avais dessiné. J'avais dessiné pour qu'il n'y ait rien de parallèle. Donc le son va toujours se perdre quelque part.
On fait une pause, on retourne tout de suite, Garou. L'album a pour titre Sound City. Et j'aimerais carrément être Diana Ross pour chanter en duo avec toi sur l'un des joyaux du patrimoine de la Motown. Bon, Garou, cette émission, elle a pour titre « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Et ce qu'ignore une partie du public, on l'a un petit peu évoqué, mais rapidement au début de cette conversation, c'est que parallèlement à ta vie d'artiste, connue sur deux continents, eh bien tu as une étonnante vie d'homme d'affaires sur ces deux continents. Ainsi, par exemple, tu as investi, il y a quelque temps, dans la restauration haut de gamme à Paris, en devenant copropriétaire, donc du Manco Paris, avenue Montaigne, qui est installé dans les crins mythiques de l'ancienne salle des ventes de Drouot-Montaigne. Et à Montréal, tu as racheté l'immense Saint-Gabriel. Alors, j'ai appris que c'était le restaurant le plus ancien d'Amérique du Nord, qui est ouvert en 1754, incroyable. Et puis, tu as également racheté une salle de spectacle baptisée le Medley, qui ressemble un petit peu à notre cigale à nous à Paris. Mais c'est fantastique parce que tu as un ADN d'homme d'affaires absolument impressionnant. Parce que là, j'ai cité deux, trois lieux comme ça, mais j'imagine qu'il y en a plein au Canada.
Moi, j'ai participé à beaucoup de choses et vraiment par passion à chaque fois. Donc j'avais envie de moi donner de l'énergie, de l'argent, des efforts et mon expérience de globetrotter sur des projets. Où on voulait faire des succès sur des projets fabuleux. Et ça, c'est vraiment démarré dès le début, en fait. Quand je faisais les dimanches à Garou, dans le bar où j'étais, mais je suis devenu pote avec des gens d'hôtellerie. Il y en a un, d'ailleurs, que j'ai amené comme directeur de tournée avec moi. Et on s'est mis à dessiner des concepts, des projets, parce qu'on voyageait. Donc, on a démarré des clubs à Montréal. On a fait le
donc
premier...
Donc, tu n'es pas seulement actionnaire. Tu participes d'une manière très concrète, en fait.
Ah oui, sinon, il n'y a pas d'intérêt.
Tu inities les choses.
Je suis un très mauvais homme d'affaires parce que je sais très mal placer mon argent. Je sais plutôt très bien la dépenser. Mais non, c'est vraiment par passion tout le temps. Et comme là, je veux dire, il y a 4 ans, je fais des travaux chez moi. Et il y a ce qu'on appelle du bois de grange chez nous. C'est du bois ancien qu'on récupère sur des vieilles granges, mais qui a été oxydé par le temps, les hivers et tout ça. Qui est d'une beauté exceptionnelle. Et quand on le met dans un mode contemporain, donc je faisais ça dans mon appartement à Montréal, qui est un appartement très contemporain, et on place de ce bois-là sur les murs, donc tu peux te faire une partie de mur comme ça, et les ouvriers sont là, mais je dis, mais c'est compliqué, comment c'est fait ça? C'est quoi ce bordel? Je dis, pourquoi personne n'a pensé à l'arranger plus facilement pour le client et pour les ouvriers aussi, pour que ça se manutentionne mieux? Et j'ai démarré une compagnie de ça. Et on a la plus grosse compagnie de recyclage de vieux bois.
As donc la plus grosse compagnie de recyclage de vieux bois du Canada.
Ouais.
Cet homme est étonnant. Extraordinaire.
Mais c'est parti d'une passion. Ben moi qui est un très mauvais menuisier, maintenant je me suis mis à en faire plein parce que ce produit-là est tellement facile que j'ai ma petite scie, touc touc touc, et mon petit compresseur et je plante mes clous et c'est hyper facile à poser. Je m'éclate avec ça, je suis fier. Pour moi, il n'y a rien qui équivaut à ça. Si j'avais placé mon argent dans des trucs qui rapportent énormément, puis là, j'avais plein d'argent aujourd'hui, j'en ai rien à battre. Moi, je veux investir mon argent, mon cœur, mon envie, mon temps sur des projets qui me stimulent, qui fait que je me couche le soir et que je suis fier. Je suis content de ce que j'ai fait.
Et par exemple, le Medley, la première salle à Montréal où tu as chanté, tu l'as racheté. Ouais. Toi, l'enfant de Sherbrooke.
Malheureusement, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Alors, il paraît qu'il y a eu une rénovation du quartier.
Ouais,
et tu avais l'ambition d'y participer, monter des hôtels, des restaurants, des théâtres. Est-ce que tu l'as fait?
Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a des gens qui sont opposés au projet pour des raisons que j'ai fini par comprendre. Mais oui, cet endroit-là, il allait tomber. En fait, physiquement, le building, on ne pouvait plus le réparer. Donc, j'avais un projet de refaire une salle de spectacle avec des restaurants, avec des tunnels sous la rue. Mais même si ça se fait pas, le temps que j'ai passé à imaginer, à faire des rencontres, à travailler ces projets-là...
C'est passionnant.
C'est passionnant. Je veux dire, le temps qu'on a, si on l'investit dans l'apprentissage de quelque chose, les moyens sont hyper faciles. Tu prends ton téléphone et tu peux à peu près tout apprendre, juste en allant voir. Ma fille, juste avant que je rentre dans le studio tout à l'heure, elle m'a parlé d'un truc...
Elle a 18 ans, à
elle
peu
a
18 près.
18 ans,
ouais. Voilà.
Elle me parle d'un truc, elle me dit, j'ai besoin d'un service, j'ai dit, faut que tu m'aides sur un projet scientifique que j'ai. Elle me parle d'un terme lié au son. Je dis, je sais pas de quoi tu parles. Et elle me dit, ouais, mais ça, c'est parce que je fais une expérience physique par rapport à ce truc-là et tout. Je dis, écoute, j'ai une interview de radio, et dès que je termine, je commence à faire des recherches avec toi, puis on essaie d'apprendre le truc, j'essaie de comprendre l'affaire.
Oui.
Et c'est génial.
Mais oui. Le monde à portée de main, de clic. Tu as le sentiment que depuis toutes ces années, en fait, le public te connaît à peu près, ou il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir de toi?
Ben, disons que la partie qu'on ne connaît pas de moi, c'est peut-être parce que j'avais pas envie de la révéler. Je me révèle plus qu'avant.
Oui.
Parce que pendant des années, j'avais besoin de protéger. Mais maintenant, peut-être que je suis un peu plus serein et je raconte un peu plus d'histoires que je racontais pas avant. Mais la partie qu'on ne sait pas de moi, oui, elle est énorme quand même et assez complexe.
Mais par exemple, qu'est-ce qui sans doute étonnerait le plus ce public s'il te voyait vivre dans les étendues sauvages des cantons de l'Est où tu as ton domaine? Tu es capable, toi, le noctambule qui refait le monde avec ta bande de potes jusqu'à l'aube, tu es capable de vivre en trappeur pendant quelques temps quand tu es là-bas?
C'est ce qu'on me raconte, c'est qu'on dit fais attention
Canada
parce que
chérie.
Quand tu fais une soirée avec les potes dans la grange, justement. Ben là, il y en a plein qui me disent « Ouais, mais oublie pas que tous tes potes, ils se lèveront pas le matin, leur chérie va être furieuse, il y a tout qui va merder. » Mais ben ma chérie, c'est très bien que moi, à 7h le mat, même si je me suis couché à 6h15, à 7h du mat, je vais être sur mon quad et je vais être parti dans la forêt en train de nettoyer quelque chose, d'arranger quelque chose. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai cet excès aussi, hein, on peut le considérer d'excès, du travail. Et il y a des choses que j'oserais pas demander aux ouvriers qui vont travailler chez moi que je vais faire tout seul, les mains dans la boue, ramasser des branches.
Amoureux de la vie, tout simplement.
Ouais, puis tellement heureux quand je termine une journée, encore une fois. Je termine une journée, je regarde ce que j'ai fait, je suis fier. Même si c'était de nettoyer un petit lopin de terre, d'enlever les branches ou sortir, couper des arbres qui gênaient, qui étaient à moitié tombés, tout ça. Puis là, je regarde puis je me dis, ah, qu'est-ce que c'est plus beau que ce matin quand même.
Hein? C'est formidable de se balader en compagnie de Garou. On se retrouve tout de suite.
Europe 1. Une heure en tête à tête avec Garou à l'occasion donc de cet album et d'une tournée. La conversation d'Isabelle Morizet avec son invité touche à sa fin.
Garou. J'ai déjà les dates de concert pour la tournée qui démarre à Strasbourg le 25 novembre 2020. Mais d'ici là, comment as-tu prévu de traverser l'année qui s'annonce? J'imagine que tu vas aller chanter dans le monde entier avant de venir nous rejoindre l'hiver prochain avec Soul City.
Déjà, janvier, enregistrement de la voix, j'ai quelques autres trucs aussi.
C'est-à-dire la version The Voice au Canada.
Exactement. Après ça, je reviens début avril, je commence à faire mon sirop d'érable parce que là, je suis en construction de la cabane la semaine
prochaine.
Attention,
très important, la préparation du sirop d'érable.
La semaine prochaine, j'achète le gros truc qui va me permettre de faire ça. Et mois de juin, je pense que j'ai un peu de temps. Mais après ça, cet été, on commence déjà à préparer le spectacle parce qu'il y a un défi. On a hyper hâte de partir en tournée.
Alors, parlons du défi pour ce nouvel album Soul City, avec les pépites du répertoire de la Motown. C'est vraiment le disque idéal pour une tournée internationale. Sur scène, tu prévois de les faire vivre comment ces titres? Il y aura des surprises, tu viens de dire défi. Comment va se construire ce show?
Ben, déjà, c'est un show où je peux aller pousser plus loin que sur l'album. Donc, j'ai envie de travailler la musicalité de ce show-là du début à la fin dans l'esprit de notre production de l'album. Et surtout, J'ai envie de prendre mes chansons du passé et de les intégrer dans ça et de créer une homogénéité de tout ça.
Alors, le 28 novembre 2020, tu seras à Annecy, le 29 novembre à Lyon, le 1er décembre 2020 à Marseille, le 3 décembre à Bordeaux, le 6 décembre 2020 à Lille, le 8 à Bruxelles et le 11 décembre 2020, la salle Pleyel à Paris sera à toi. Alors c'est vraiment un écrin avec une acoustique inouïe, cette salle Pleyel.
La salle Pleyel va être parfaite
voilà,
pour ça.
Voilà, elle est pas très grande, et il paraît que tu adores les petites salles qui te rappellent tes débuts, c'est ça?
Ben c'est ça, c'est cette première partie de tournée où j'ai dit, avec le producteur, on s'assoit, puis il me dit, est-ce que tu as envie de démarrer en grande salle ou tu veux faire des plus petites salles vu le truc? Et là, la question se pose, mais il y a des réalités aussi monétaires. On se dit, bon, ben, ça va me coûter très cher, je ferai pas d'argent, mais je vais m'amuser, quoi. Et donc, les salles sont plus petites, mais la scène est très grande puisqu'il va y avoir beaucoup de musiciens. Mais c'est tellement plus agréable. Donc, on va vraiment se sentir dans l'univers. En fait, je veux inviter les gens dans ma grange.
Oui, voilà, exactement.
C'est un peu ça, tu vois.
Bon, alors, Garo, si je te demande de nous quitter en musique a cappella avec un de ces titres que les Canadiens adorent fredonner quand ils se retrouvent autour d'une veillée, tu me proposes quoi? Là, maintenant,
là,
un
maintenant,
refrain a cappella.
Je te dirais, non, mais il faut que ça bouge un peu.
Allez.
Je te dirais... I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg, sweet darling, please don't leave me, girl.
Oh my God, c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, Soul City, c'est vraiment l'album sur lequel il faut se jeter dès maintenant.
Que tu sais, ma fille de 18 ans, elle me disait « Non mais papa, c'est pas un album de la Motown que tu fais, c'est un album des Gardiens de la Galaxie. » Parce que c'était la trame sonore des Gardiens de la Galaxie, c'était du répertoire Motown. Donc, ouais, vos plus jeunes, comme les plus vieux, vont se régaler sur cette musique.
À très, très, très vite.
À
je t'embrasse.
À très bientôt, merci.
Mais c'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation dans laquelle on peut se replonger sur Europe 1.fr.